Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de robots géants qui sauvent l'humanité. Non, il ne s'agit pas de Goldorak, ni de Pacific Rim, ni de Gundam, ni de Macross, ni de Pas de la Bonne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Neon Genesis Evangelion. Evangelion, je vais la nommer comme ça, c'est plus court, est une série d'animation de 26 épisodes diffusée à partir de 1995 au Japon. Elle est écrite et réalisée par Hideaki Anno. Il a auparavant travaillé sur Nausicaa, un film aux accents écologiques, et Les ailes données à Mise, l'histoire de la conquête spatiale dans un univers fictif. L'action d'Evangelion se situe en 2015 au Japon. Oui, je sais, mais en 1995-2015, ça paraît loin. Nous sommes donc au Japon, à Tokyo 3 plus exactement. Pourquoi Tokyo 3 ? J'y reviendrai un peu plus tard. Et d'emblée, la situation ne paraît pas brillante. On a l'impression que le paysage a subi une inondation, et c'est à peu près ce qu'il s'est passé. 15 ans plus tôt, en 2000, une explosion cataclysmique se produit au pôle sud. Il s'ensuivra bien évidemment des conséquences dramatiques, fonte des glaces, montée des eaux, dérèglement climatique et bien évidemment disparition de la moitié des êtres vivants sur Terre. L'explication de cette explosion, appelée le second impact, un météorite a heurté le pôle sud à un dixième de la vitesse de la lumière. Radical. Au début du premier épisode, nous faisons la connaissance du personnage principal, Shinji Ikari, un jeune homme de 14 ans. Il arrive à Tokyo sur invitation, ou plutôt sur ordre de son père. Alors qu'il essaye de joindre sans succès la personne qui devait l'accueillir, il se trouve plongé au beau milieu d'un affrontement entre les militaires et une créature bipède, d'environ 40 mètres de haut, qui s'acharne à vouloir rentrer dans Tokyo 3, en détruisant au passage les engins volants qui lui barrent la route. Un de ces engins qui d'ailleurs tombe pas loin de Shinji, et il en réchappe de peu grâce à l'intervention de Misato Katsuragi. C'est elle qui devait l'accueillir. Le capitaine Katsuragi n'est pas juste le taxi qui transporte Shinji. Elle est le commandant des opérations de la Nerve. Mais je vous en reparle un peu plus tard. Pendant que la créature se dirige vers Tokyo 3, notre jeune héros est conduit dans le QG souterrain de la Nerve. Il y retrouve son père qui en est le directeur. Tout de suite, on se rend compte qu'entre ces deux-là, c'est pas le grand amour. Le père n'a pas demandé au fils de venir pour tailler la bavette, mais pour une mission surprenante. Gendo, le père, veut que son fils pilote une Eva pour combattre la créature qui progresse toujours vers la ville. Alors une Eva, c'est quoi ? L'Eva est un humain de synthèse. Certes, ce n'est pas vraiment un robot, mais son aspect fait très mécanique. Elle, parce qu'on en parle à chaque fois au féminin, a une apparence humanoïde, mais avec des proportions différentes des humains. Le torse est très long et fin. Il n'y a quasiment pas de hanches. Là où ça commence à faire bizarre, c'est la partie haute du corps. Sur les épaules, il y a des extensions qui ressemblent à des ailerons, et la tête est différente sur chaque modèle d'Eva. Un œil à la façon d'un cyclope pour l'Eva 00, deux yeux classiques et une corne pour l'Eva 01, et quatre yeux et deux cornes pour l'Eva 02. Leur taille est estimée à environ 80 mètres. Ça fait déjà une belle bête. Elles fonctionnent par synchronisation psychique avec un ou une pilote qui prend place dans une entry plug, une capsule à la forme d'une torpille qui est insérée au niveau de la nuque de l'Eva. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on vous insérait votre majeur à la base du cerveau. Une fois fermé, l'entry plug est rempli de LCL, un liquide ambré très riche en oxygène qui favoriserait le taux de synchronisation entre le pilote et l'Eva. Pour faire fonctionner l'Eva, le ou la pilote n'a qu'à penser à une action pour qu'elle se fasse. Pour parvenir à un fonctionnement optimal et fluide de l'Eva, il faut une synchronisation très poussée, et donc un échange d'informations dans les deux sens. Les pilotes sont en osmose avec leur machine, ce qui peut se révéler handicapant car tout dommage causé à l'Eva est transmis au pilote sous forme d'un flux nerveux. Si l'Eva a le bras cassé, le ou la pilote va croire que c'est son bras qui est cassé. Même si on est prévenu de ce désagrément, faire la part des choses doit être difficile, qui plus est en situation de combat. C'est bien joli tout ça, mais à quoi ça marche ces engins? Je dirais un peu comme nous, à l'électricité. En situation normale, si l'on peut dire, elles sont alimentées par un câble qui leur arrive dans le dos. En cas de nécessité, le câble peut être débranché, les EVA ont alors une réserve de 5 minutes, qui tombe à 1 minute en cas d'effort violent et soutenu. Et ça, des efforts violents et soutenus, elles vont en faire. Elles sont agiles, rapides. Dans un épisode, on voit l'une d'entre elles courir à la vitesse du son et sauter au-dessus d'une ligne à haute tension comme un athlète saute une haie. Elles se débrouillent au corps à corps et peuvent même mettre des objets en orbite. Vous allez me dire, mais à quoi servent alors? Leur mission est de protéger Tokyo 3 des attaques des anges. Mais Tokyo 3 n'est que la partie immergée d'un dispositif beaucoup plus conséquent. Elle est une sorte de ville-forteresse au service des EVA pour protéger ce qui se trouve sous terre. Et sous terre, il y a le géofront. Une cavité sphérique énorme, 13 km de diamètre. On y retrouve les installations de la nerve. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il est peut-être temps de vous expliquer ce qu'est la nerve. La nerve est une organisation qui dépend des Nations Unies, dont le but est de combattre les anges par le biais des EVA. Son autorité est limitée géographiquement à la région de Tokyo 3, mais elle supplante toutes les autres en cas de force majeure, y compris l'armée. Son QG est situé dans le central dogma, qui lui-même est au centre du géofront. Et c'est justement là que veut se rendre la créature que j'ai évoquée plus tôt. Je vous ai parlé d'ange. Eh bien, cette créature en est un. Et on est très très loin des jeunes gens avec des ailes immaculées dans le dos. Ces êtres, car il y en aura plusieurs, auront tous le même objectif. Pénétrer dans le géofront pour entrer en contact avec Adam, le premier des anges, et provoquer le troisième impact qui finira de détruire l'humanité. La pression qui repose sur les pilotes des EVA est donc énorme. Ils ont tout simplement la sauvegarde de l'espèce humaine entre leurs mains. Cette tâche ne sera pas simple. Déjà, il y aura 13 anges à affronter avec chacun sa particularité. Le premier que Shinji a combattu avait un aspect vaguement anthropomorphe. Le deuxième ressemble à une sèche. Le troisième est un cube qui lance des rayons énergétiques qui peuvent faire fondre une montagne. Au-delà de leur apparence étrange, ils ne semblent pas véritablement belliqueux. Ils apparaissent comme par magie, se dirige droit vers Adam en éradiquant tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce ne sont pas des monstres vociférants comme peut l'être Godzilla. Ils sont juste implacables, résistants et dotés d'une sorte de bouclier qui les met à l'abri de toute arme conventionnelle. L'AT-Field. On pourrait comparer ça avec un bouclier électromagnétique déployable à l'envi. Petite anecdote, les humains disposeraient aussi d'un AT-Field, mais d'une puissance infinitésimale. Les Eva peuvent elles aussi générer un AT-Field de puissance équivalente à celle des anges. Shinji n'est pas tout seul pour lutter contre les anges. Il y a deux filles avec lui. Rei Ayanami, la première enfant choisie pour piloter une Eva, on ne sait rien d'elle. Mutique et effacée, elle trouble Shinji par sa ressemblance avec une personne qu'il croit reconnaître. Asuka Soryu Longley, deuxième pilote choisi, est à l'opposé de Rei. Exubérante, grande gueule, il faut bien le dire, elle a une haute opinion d'elle-même. Bien qu'ayant le même âge que les deux autres pilotes, elle les considère comme des gamins et se voit plus comme une adulte. Le sort du monde repose donc sur trois ados. Ils sont le fer de lance d'une organisation forte de milliers de personnes sans laquelle ils ne pourraient rien faire. Mais c'est quand même eux qui vont au charbon et qui risquent leur santé physique et mentale à chaque combat. Combats qui sont à chaque fois des improvisations, les anges ne dévoilant leurs capacités qu'au dernier moment. Mais le combat contre les anges n'est pas le seul affrontement qui prenne place à Tokyo 3. La NERV doit aussi batailler contre un ennemi plus sournois, la ZLE. Organisation secrète, forcément, qui n'a qu'un seul but, le plan de complémentarité de l'homme. Ce plan, trouvé dans des manuscrits immémoriaux, annonce une prochaine étape de l'évolution de l'espèce humaine. Mais les anges sont là pour contrecarrer ce plan. C'est pourquoi la ZLE a fondé la NERV, pour combattre les anges. Tout en se méfiant de Gendo et Kari. Pas simple comme trame narrative. Donc je récapitule. La ZLE a créé la NERV pour lutter contre les anges avec Gendo et Kari à sa tête. Il semble le seul capable de mener à bien cette mission. Mais la ZLE le surveille de très près, car il est aussi susceptible de contrer la mise en place du plan de complémentarité. Au début de la présentation, je vous ai parlé du second impact. Pourquoi second ? Eh bien, car il y en a eu un premier, forcément. Il a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années, une planète errante de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a créé la Lune. C'est dire le niveau cataclysmique qui est attribué au second. Mais on va vite découvrir que le second impact n'est pas un impact. Il s'agit d'une expérience qui a mal tourné, c'est peu de le dire. En 2000, un géant endormi est découvert dans les glaces du pôle sud. Des scientifiques, sous les ordres de la ZLE, vont tenter d'entrer en contact avec lui en fusionnant avec de l'ADN humain. Mais quand on commence à jouer aux apprentis sorciers, des fois, ça se retourne contre vous. Là, ça ne loupe pas. Adam se réveille et provoque ce qu'on appelle le second impact, qui transformera le pôle sud en un océan rouge et stérile et provoquera toutes les calamités décrites plus tôt. Voilà pourquoi aucun ange ne doit entrer en contact avec Adam. Alors pourquoi Neon Genesis Evangelion vaut le détour ? Déjà pour ce qu'on appelle le mecha design, le design de tous les éléments mécaniques. Les Eva ne ressemblent pas du tout aux robots géants qu'on a pu voir auparavant. Leur prédécesseur était mal dégrossi, balourd. Il ne bouge pas beaucoup, il semble emprunté au mouvement lent. Parfois, il lance des projectiles, mais ça ne va pas plus loin. Les pilotes les dirigent par le biais de moult leviers et manettes, ou alors comme dans Goldorak, il y a seulement deux manettes et on ne sait pas trop comment ça marche. Et vous n'avez pas idée combien ça peut être frustrant de ne pas savoir comment ça marche. On nous balance le truc comme ça et démerdez-vous. Le fan de mecha que je suis a besoin de savoir. Même si ce n'est pas réaliste, on le sait, c'est de la SF, il faut que ce soit cohérent. Dans Evangelion, on a des réponses. L'ensemble paraît « crédible », entre guillemets. La liaison pilote-machine par le biais du LCL, des connexions nerveuses, la synchronisation, parfois fluctuante en fonction de l'état d'esprit du pilote, tout ça fait qu'on adhère à l'idée. Et on jubile d'autant plus que là, le robot va au contact. Un signe supplémentaire du niveau d'engagement que l'on attend des EVA, leur arme de prédilection est un couteau. L'arme ultime des corps à corps. Les combats se font à portée de poing, tout en fluidité, ils sont rythmés, intenses, ça envoie du bois. Pas seulement les robots, tout leur environnement est raccord. Les équipements sont démesurés à leur échelle. De plus, les EVA ne sont pas de simples pantins que seul un pilote peut animer. Elles sont dotées d'une âme propre. Et ça semble faire consensus en SF. Un être vivant, créé de toutes pièces, ne peut vivre sans une âme. Dans le film The Island, réalisé par Michael Bay, oui je sais, le constat est le même. Un organisme a besoin d'une âme. Sans celle-ci, l'organisme meurt. Ça rajoute encore une couche sur le côté spirituel de la série, mais j'y reviendrai. Les scènes de combat sont contrebalancées par des passages plus légers. Par exemple, la vie quotidienne des héros, qui restent avant tout des ados, avec tout ce que cela implique. Le lycée, les amis, les amours. Mais Evangelion, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une très grande part d'introspection de la part des personnages principaux. Pour résumer, on pourrait dire que c'est Goldorak au pays de Freud. Petit aparté, je n'ai pas choisi Goldorak par hasard. Actarus, le héros de la série, a volé Goldorak aux forces de Vega, qui s'en étaient servies pour conquérir sa planète. Il s'en servira contre eux pour les empêcher de faire main basse sur la Terre. Dans Evangelion, les EVA sont des clones d'Adam, et elles combattent les anges. Le parallèle entre les deux séries est troublant. Et il ne s'arrête pas là. Actarus est le fils adoptif, certes, du chef du dispositif, qui combat les envahisseurs de Vega. Actarus ressemble beaucoup à Shinji par son état d'esprit, et on doit lui forcer un peu la main pour piloter Goldorak. Evangelion est une série originale, mais les inspirations, conscientes ou non, sont le lot de toute création. Voilà pour le côté Goldorak, alors pourquoi Freud ? Cette série est connue aussi pour une récurrence, l'introspection des personnages et la présentation de leurs failles psychologiques. Tous les personnages principaux ont droit à leur analyse. Tout d'abord Shinji. Dès les premières minutes, on se rend compte que la relation avec son père est problématique. Il faut dire qu'il n'a pas été gâté durant ses premières années. Sa mère meurt lors d'un test sur l'EVA 01. Durant un essai de synchronisation, son corps est dissous dans un triplug. Shinji aurait assisté à la scène, même s'il n'en a pas souvenir. Sur ce, son père l'abandonne et le confie à un tuteur pour s'occuper pleinement de la nerve. À ce moment, le petit garçon a 4 ans. Shinji est un garçon timide, totalement effacé. Il ne semble avoir aucun ego. Un jour, on lui demande pourquoi il pilote une EVA, et il répond « parce qu'on m'en l'a demandé ». Il n'existe que par et pour les autres. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est qu'il souffre d'un grand manque de considération et de confiance en soi. Il fait ce qu'on lui demande de faire, mais il est heureux quand on le félicite. Dans ces moments, il existe pour quelqu'un, il compte pour quelqu'un. Ray, elle, est un mystère savamment entretenu pendant une grande partie de la série, et on comprendra pourquoi lors des derniers épisodes. Elle n'en reste pas moins un bon petit soldat qui exécute les ordres sans se poser de questions, même si elle doit aller jusqu'à se sacrifier. Vient ensuite Azuka, la petite peste. Arrogante, sûre d'elle, elle pilote une Eva pour être félicitée. Ça flatte son ego. Elle ne supporte pas que l'on félicite Shenji. Pour elle, tous les honneurs lui reviennent de droit. Mais ce genre d'attitude, ça peut marcher tant que tout va bien. Au premier accro, tout s'effondre comme un château de cartes. Et reconstruire une confiance bâtie sur des fondations branlantes, c'est pas simple. Gendo Ikari, le père de Shinji, est comme un roc, imperturbable, implacable, prêt à sacrifier son fils pour le bien de la mission. Il ne le considère que comme le pilote de l'Eva 01. C'est la mort de sa femme qui le hante, et il ne rêve que du moment où il sera à nouveau uni à elle. Mais cette réunion n'est pas simple à organiser. Il y a aussi Misato Katsuragi, la chef des opérations de la Nerve et nounou des pilotes. Elle est la seule survivante de l'expédition dont faisait également partie son père qui a réveillé Adam en 2000 au pôle sud. Sa haine envers les anges n'en est que plus farouche. Elle entretient avec les hommes des rapports superficiels, de peur de s'attacher. Bien que reconnaissant envers son père qui l'a sauvé, elle lui en veut d'avoir sacrifié sa famille à son travail à la Nerve. Rien d'étonnant donc à ce que Misato se retrouve un peu dans Shinji. Ce qui l'opposera à un autre personnage, Ritsuko Akagi. L'alter ego scientifique de Misato pour les opérations de la Nerve. Elle raisonne plus de manière cartésienne et laisse moins la place aux émotions. Elle a aussi un passé familial lié à la Nerve. Sa mère a participé à la fondation de l'organisation. Elle a même construit Magi, le super ordinateur qui veille au bon fonctionnement du central Dogma. Cette mère qui se suicidera une fois sa tâche terminée, se sentant trahie par Gendo. Misato et Ritsuko, bien que très bonnes amies, s'opposent parfois sur la gestion des pilotes. Misato étant plutôt une mère poule, et Ritsuko, moins sentimentale, rejoignant sur ce point Gendo. Les portraits que j'ai brossés ne sont qu'un survol des personnages, l'introspection se faisant parfois beaucoup plus profonde, voire intime pendant la série. Toutes ces interactions relèvent d'un principe qui est présenté en sous-texte. Le dilemme du hérisson que l'on doit au philosophe Schopenhauer. C'est une allégorie sur les relations humaines. Les hérissons, lorsqu'ils ont trop froid, se rapprochent les uns des autres pour garder un peu de chaleur. Et s'ils se rapprochent trop, ils se blessent avec leur épine. Pour se préserver, au risque de souffrir de solitude, il est préférable de garder une certaine distance avec les autres. Le tout, selon Schopenhauer, est de trouver la bonne distance. Facile à dire. Il y a un point qui a dû vous marquer depuis le début de l'émission. C'est l'utilisation d'un lexique religieux, catholique pour être précis. N'y voyez aucun prosélytisme. Hideaki Anno était fasciné par l'iconographie et les textes catholiques, mais aussi de la Kabbale. Il les a utilisés dans un but mystique et folklorique. Pour les Japonais, plus habitués au bouddhisme et au shintoïsme, la religion catholique est exotique. Comme peuvent l'être pour nous, le confucianisme ou l'hindouisme. Neon Genesis Evangelion, avec son approche nouvelle de la partie mecha, et profonde, voire médicale de la psychologie des personnages, a créé un choc. Hideaki Anno a su réinventer le genre en proposant des idées originales, parfois dérangeantes mais très souvent marquantes. En alternant des scènes d'une sauvagerie gore et des moments de la vie presque quotidienne d'un groupe d'ados, il a su créer un univers dystopique, post-apocalyptique mais tellement riche. En mélangeant science et religion dans un maelstrom à la fois angoissant mais passionnant. On y replonge à chaque fois, en craignant l'arrivée prochaine d'un ange et en espérant l'apparition d'une Eva pour nous sauver. J'espère que je vous ai donné envie de commencer à explorer l'univers d'Evangélion. Et je ne vous ai pas tout dit, histoire de vous réserver quelques surprises. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».